c'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. Freestyle. Mais non, mais je viens de raconter des.
Non, pas ça, ton freestyle.
Ton rap, mais genre de.
Ton rap. Vrai.
Et attends, nous, on rigole, mais en background.
Non, faut que tu fasses des bacs.
Non, on
fait des bacs. Non, pa, pa. Dans le 6-2 ce soir.
Séraphine.
Ski, pop, pop, pop. J'arrive armé dans la cité, entouré de mon équipe cagoulée. On boit pas de coca toute l'année. Chez nous, c'est seulement de la DSP. On joue encore à la PSP. Wow. Avec ta sœur Lan. Toujours êtes dans le canapé. À la wow. Pas de vie, ça s'appelle la flémardité. Bonjour à tous, on se retrouve avec vous sur Radio PFM, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants de la Ferthèse d'Arras du groupe Radio. Ensemble, nous allons parler des métiers du social et des associations. Tout de suite, la chronique qui a pour thème les associations, présentée par Ève, Zoé et Théo. C'est parti.
Bonjour et bienvenue sur les chroniques de PFM Radio en collaboration avec la Ferthèse d'Arras. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous présenter l'histoire des associations.
Tout d'abord, il faut savoir que les associations ne sont pas un phénomène récent. Dès l'Antiquité, la population a souhaité se rassembler au sein d'organisations et l'on voit alors naître les premières associations en Grèce. À cette période, la population ressentait le besoin de se réunir en associations libres, principalement pour défendre ses intérêts. Il pouvait s'agir de regroupements par classe sociale, notamment les citoyens les plus riches, par intérêt politique, par intérêt religieux ou encore par intérêt professionnel.
Et fini la Grèce, reprenons l'avion vers le pays de la baguette et de la tour Eiffel pour parler un peu juridique. En effet, c'est en 1901 que l'histoire des associations connaît un tournant en France.
Effectivement, c'est grâce à Pierre Waldeck Rousseau qui fait adopter un encadrement concernant le fonctionnement de toutes les associations ayant leur siège en France ou exerçant en France une activité permanente.
En effet, au niveau mondial, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le premier réseau de bénévoles au monde. Il regroupe plus de 17 millions de bénévoles, 80 millions de membres et plus de 430 000 collaborateurs. Preuve, s'il en fallait, de l'impact que peuvent avoir les associations.
À savoir également qu'il y a quatre grandes fonctions remplies par les associations.
Partager un loisir entre membres, défendre des intérêts des membres, rôle caritatif et humanitaire, expression, diffusion et promotion d'idées ou d'œuvres.
D'ailleurs, en France, en 2019, 4 personnes sur 10 étaient adhérentes auprès d'une association. Chaque année, un peu plus de personnes s'engagent dans le domaine associatif.
Il est donc très facile d'intégrer une association, donc pourquoi pas vous ?
Bonjour, nous allons interviewer des personnes du métier du social afin d'en savoir plus sur ce secteur. Nous sommes aujourd'hui en présence de Norine, Léa et Amélie. Amélie exerce sa profession depuis 10 ans en tant que monitrice éducatrice dans le public en situation de handicap. Elle a effectué ses études à l'IRTS de Valenciennes. Quant à elle, Norine exerce sa profession depuis 2 ans en tant qu'éducatrice spécialisée avec des enfants de 2 à 16 ans ainsi que leur famille. Elle a effectué ses études à La Ferthèse d'Arras. Léa, elle, exerce sa profession depuis 2 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Elle est référente famille en centre social avec des enfants de 2 à 16 ans ainsi que leur famille. Et elle a aussi effectué ses études à la Ferthèse d'Arras.
Alors pour la première question, qu'est-ce qui vous motive à pratiquer ce métier ?
Je dirais que de travailler avec l'humain, c'est un enrichissement tous les jours. Et je pense que quand on est travailleur social, on apprend autant des personnes que l'on accompagne qu'eux apprennent de nous.
Oui, c'est un réel échange entre l'humain, entre nous, entre les personnes qu'on accompagne. C'est de l'engagement, un vrai engagement. On ne fait pas ce métier par hasard et je pense que c'est une des plus grandes valeurs, c'est vraiment l'investissement auprès des personnes.
Rencontrez-vous des difficultés ?
Oui, des difficultés quotidiennes. Je pense qu'on peut vraiment parler de difficultés quotidiennes. Toutes les journées sont différentes. On ne sait jamais sur quelles difficultés on va tomber, mais sur quelles aussi facilités, parce que ce n'est pas que des difficultés malgré tout toute la journée. Et l'humain est changeant, nous aussi on est différents. On doit aussi arriver avec nos problèmes du quotidien face à des personnes qui, eux, ont d'autres problèmes. Mais aussi on a des problèmes, des difficultés au sein du travail parce qu'on a des fois un gros turnover au niveau des professionnels, des burn-out, faut pas l'oublier. Je pense aussi au niveau des salaires, on a eu des grosses difficultés fut un temps. Aujourd'hui ça va un peu mieux grâce à la prime Ségur pour pour les professionnels, pas pour tous malheureusement.
Je pense aussi que le manque de moyens dans nos métiers fait qu'on ne peut pas toujours répondre à tous les besoins, même si on essaye de s'adapter au mieux, mais ça peut être une réelle difficulté au quotidien.
Oui, je confirme et je pense qu'il faut faire, il faut être force de proposition et innover.
Alors la troisième question, c'est est-ce que ce métier était votre vocation ?
C'est-à-dire notre vocation de base qu'on a toujours voulu faire ?
C'est ça.
Oui, moi, oui.
Oui, pas du tout. moi, c'est vraiment une reconversion professionnelle. J'ai été pendant plus de 10 ans esthéticienne. Donc, il y a un rapprochement parce qu'il y a le travail avec l'humain. On est aussi seul avec la personne, donc la cliente, parce qu'on ne parle pas de personnes qu'on accompagne, mais de clientèle. Et j'étais toute la journée avec des personnes qui se confiaient à moi, mais sans pouvoir les accompagner dans leurs difficultés si elles en avaient. Et du coup, c'est pas une vocation, mais c'est devenu naturel de me projeter sur le social par la suite.
Pensez-vous évoluer dans votre métier ?
Moi, je suis actuellement en cours de VAE pour être éducatrice spécialisée.
Moi, je viens seulement de commencer, donc l'évolution, j'y pense pas encore. Mais pourquoi pas, au fur et à mesure, reprendre des études ou faire des formations, ça peut être intéressant.
Pour ma part, donc, j'ai commencé en tant que référente famille au programme de réussite éducative. On m'a laissé l'opportunité de devenir coordinatrice de ce programme de réussite éducative aujourd'hui. Mais l'évolution, oui, je pense qu'on la voit toute à un moment donné, pour pas non plus rester dans nos acquis. Donc les formations en interne, en externe, mais aussi pourquoi pas reprendre des études et se diriger par contre toujours vers le social pour ma part.
Et donc pour finir, la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un débutant qui finalement débute dans ce métier ou dans cette formation d'éducateur spécialisé ?
Je dirais qu'il faut persévérer parce que comme on est avec de l'humain, il n'y a jamais rien d'acquis. Voilà, on peut se retrouver dans des situations auxquelles on va être en difficulté, mais c'est pas pour autant qu'on a un mauvais professionnel. On n'a pas non plus la science infuse. On peut pas répondre tout de suite dans l'immédiat. Donc, il faut apprendre à différer les demandes parfois. Et si vous le faites, ça fait pas de vous un mauvais professionnel. Bien au contraire, ça montre aussi que vous êtes aussi des humains et que vous réfléchissez avant de pouvoir amener une solution qui sera la plus adéquate, appropriée. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. Et pensez à prendre du recul ou sur vos vies. Pensez à prendre du temps pour vous et engagez-vous. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que c'est une des plus grandes valeurs et on en parle souvent avec une de mes collègues. Et je pense que n'oubliez pas que vous travaillez avec l'humain et non avec des machines. Donc, devant vous, vous avez des personnes qui sont soit vulnérables, soit vraiment détruites par la vie. Des enfants de bas âge, des ados, des mères de famille, voilà. Beaucoup de personnes, des personnes âgées. Donc, prenez du recul, mais n'oubliez pas que vous travaillez avant tout avec de l'humain et non une simple machine devant vous. Vous avez souvent leur vie entre vos mains.
Maintenant, en exclusivité, nous allons découvrir des structures rêvées imaginées par mes très chers collègues de la Fertes. Bien sûr, ce n'est que fantaisie.
C'est une structure basée dans l'espace, servant à s'occuper des personnes atteintes d'handicap mental. L'idée de cette structure particulière est en lien avec une étude faite par des chercheurs en neurosciences qui a pu démontrer les effets bénéfiques d'être en proximité avec les étoiles sur le cerveau humain. En étant au sein de cette structure, les occupants peuvent miraculeusement réutiliser petit à petit les parties endommagées de leur cerveau pour faciliter leur quotidien temporairement. Constituée majoritairement de verre pour bénéficier du rayon des étoiles, cette structure insolite va également retracer la vie de ses patients pour qu'ils puissent ainsi retrouver des éléments de leur vie et donner une sensation de chez soi. Les éducateurs spécialisés présents sur place peuvent donc accompagner au mieux les personnes en situation de handicap mental et accélérer l'acquisition de leur autonomie.
Dans un monde parallèle, dans la ville d'Omolon au Canada, se trouve le premier EHPAD Club Med du nom appelé Tabernacle Club. Le Tabernacle Club est une structure sociale de Corliss accueillant des seniors. Tous fans de Céline Dion, ils sont tous âgés de 80 ans à 152 ans. L'accompagnement social est simple et sécurisé. Le but est d'accompagner les résidents à devenir des futurs professionnels de la F1, le fauteuil 1.
Pour leur permettre un full confort, l'équipe sociale a mis en place des jacuzzis, des spas, des hammams, un zoo avec ours, caribou, castor et grizzly. En papillon de lumière sous les projecteurs. De plus, pour les faire voyager visuellement et physiquement à travers le Brésil, des danseuses à gogo sont présentes au niveau des chambres. Pour un voyage culinaire, le buffet, bar à soupe et poutine est à disposition à tous. Les chambres ont l'odeur de la chacapatate malgré les 80 mètres carrés.
La piste de course sur le toit permet aux personnes âgées d'avoir un entraînement intense, de fauteuils roulants à moteur débridé, rouge mat, permettant d'aller jusqu'à 250 km/h. Venez tous à Terberna Club.
Notre logement d'hébergement est uniquement destiné aux personnes en situation de handicap. Construit de murs de slime, équipé de tables pop-it et de chaises de balles anti-stress, ce qui leur permettra de gérer leurs anxiétés et leurs émotions. Ici, pas d'escalier, on monte en montgolfière et on descend en toboggan géant, en vue de leur donner confiance en eux et de s'amuser.
On leur propose plusieurs activités dans le logement. Nous avons un parc aquatique, un zoo, un centre équestre, une salle de sport et un terrain de golf. Ce n'est pas tout, le logement possède sa salle de cinéma, avec pop-corn à volonté pour bien se rassasier, sans oublier ses sièges chauffants et climatisés, afin de bien réguler leur température. De plus, des distributeurs d'argent illimités sont mis en place pour profiter de notre magnifique salle d'arcade, où ils peuvent se balader en skateboard volant.
Avec toutes ces activités proposées, la fatigue sera au rendez-vous. Pour cela, des lits en chamallow et des couvertures en soie leur permettent le confort ainsi qu'une nuit de rêve. Nous avons même engagé le marchand de sable dans le but qu'aucun cauchemar ne se produise. Ce drôle de lieu permet donc aux personnes qui le fréquentent de trouver un équilibre. Il se situe dans les nuages et s'appelle Paradisland. Mais attention, s'ils saturent et veulent changer d'air, un bouton est disponible dans leur chambre, un toboggan arc-en-ciel apparaîtra et les emmènera dans le lieu choisi.
Ça donne envie d'être riche, n'est-ce pas ? C'était ridicule ce que j'ai fait. Mais non, on va bien tous rester dans nos 12 mètres carrés de nos appartes étudiants où tu galères parce que la pression de l'eau, bah, elle est pas assez forte. Donc tu galères à te laver les cheveux. Bref, Béliève, croire en tes rêves, changeons de sujet. On passe maintenant au micro-trottoir de la ville d'Arras. On a donc été interrogé différents publics dans la grande place au sujet des associations et des métiers du social. On vous passe ça de suite.
Pour vous, qu'est-ce que l'engagement ?
Merde. Bah beaucoup de choses, ça dépend du contexte, non ? C'est une promesse, peut-être ? Un soutien ? Ça peut être vu comme un soutien. Souvent dans l'engagement, on s'engage pas pour rien. Souvent, on n'est pas seul dans un engagement. Donc c'est toujours au moins de deux parties, je dirais.
L'envie d'avancer ensemble.
Se mettre au service des autres. Puis dans différentes associations alimentaires, comme la Croix-Rouge, tout ça. Oui. Puis l'engagement... Puis aussi s'engager au niveau de sa famille, prendre soin de sa famille, ses amis, tout ça.
C'est vrai.
Engager, ouais. C'est défendre une cause.
Ouais, en vrai. Ouais, ouais, lutter pour quelque chose. Hein.
Ouais, des objectifs. Je sais pas, peut-être quelque chose de nouveau, non ?
C'est tout et rien à la fois. C'est l'engagement.
C'est s'engager volontairement et aller jusqu'au bout de son idée.
L'engagement, le bénévolat.
S'investir, on peut prendre s'investir, s'engager, c'est ne pas faire les choses à moitié. Si on est par exemple élève, pas faire les choses à moitié. Quand on est professeur comme j'ai été, pas faire les choses à moitié. Et puis s'investir dans des causes, c'est-à-dire en gros, qui paraissent justes. Voilà.
Connaissez-vous des métiers du social ?
Tout à fait. Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, tel que je suis, voilà, enfin que j'étais.
Alors c'est assistant social, oui. Éducateur de jeunes enfants, spécialisé.
Bah, les aides à la personne, par exemple, pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Dans le social, on a aussi tout ce qui va être assistante sociale, tout ça. Tout, par exemple, avec toute la maison de l'emploi et des métiers, là, autour d'Arras. J'ai pas d'autres exemples comme ça qui me viennent en tête, mais c'est l'idée.
Métier du social, dans les centres, non ? Les animatrices, les animateurs, éducateurs. Dans les hôpitaux aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça. Les autres retraites, en plus, une
tête. Psychologue, non ? Social. Psychologue, conseiller d'orientation.
En vrai, tout ce qui touche à l'éducation, un petit peu. Hein.
Oui, j'ai... Mes ex-femmes assistantes sociales, ma belle-sœur assistante sociale, oui. Ma belle-fille est assistante sociale, oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez me citer deux associations dans la région ?
que vous connaissez.
Comme ça, n'importe lesquels.
Ouais, n'importe lesquels, non, peu importe.
Une association. Alors, est-ce que la SPA est une association?
Oui, oui, oui.
Bon, super, donc j'en fais une. Et puis, notre association. Eh ben, il y avait la guilde Lord Rork, mais je crois qu'elle est fermée.
Entraide et responsabilité.
Oui. Audace.
C'est pour aider les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, entraide et responsabilité, on porte des choses, on ne peut plus, ou de la vaisselle, ou des vêtements. Et puis, elle revend à des gens qui n'ont pas trop de ressources.
Ceux du Caire, les Enfoirés,
ouais,
la Croix-Rouge, il y en a plein, hein. Emmaüs.
Alors, aide aux sans-abri, donc le foyer La Margelle, le foyer Petit Âtre.
Il y a le GEM.
Il y a le GEM, oui.
Et puis
le resto du cœur.
Alors, il y a le GEM, donc c'est un groupe d'entraide mutuelle, ça s'appelle l'Embarcadeur. C'est pour tous les patients qui sortent d'hospitalisation psychiatrique, des choses comme ça, qui ont besoin de réinsertion sociale. Après, ici, il y a les Restos du Cœur quand même.
Après, c'est beaucoup pour les animaux aussi.
Ouais.
Les associations dans des petites villes, il y en a beaucoup pour les animaux, les soins et tout ça, mais après...
Moi, ça marche.
Il y a la SPA, quoi.
Ouais.
C'est une association, la SPA.
Secours Populaire, puis Resto du Cœur.
Ouais, la Croix-Rouge, l'Abbé Pierre.
Le Petit Âtre, centre d'hébergement pour les personnes en difficulté avec l'alcool. Les 4 AJ, les foyers d'hébergement, Benoît Labre. Audace,
beaucoup.
Également.
Merci.
Voilà.
Nous passons à la présentation d'un portrait d'un homme ou d'une femme engagé selon nos étudiants. C'est parti, sortez vos oreillettes.
Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo et est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg et est ancien président de la République d'Afrique du Sud. Il a été l'un des leaders historiques de la lutte contre le système politique institutionnalisé de ségrégation qui s'appelle l'apartheid. Il fut ensuite élu président de 1994 à 1999 à l'issue des premières élections nationales sans ségrégation de l'histoire de l'Afrique du Sud. Il rentrera au Congrès national africain en 1943. Il deviendra par la suite avocat et participera à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid. Le 5 août 1962, il se fera arrêter par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Il sortira par la suite et deviendra un symbole de la lutte contre le racisme.
Camila Cabello est née le 3 mars 1997 à Corimar, à Cuba. C'est une chanteuse et une actrice. Sa mère est cubaine, son père mexicain et sa sœur américaine. Durant toute son enfance, elle subit des allers-retours entre le Mexique et Cuba. À ses 6 ans, ses parents décident d'immigrer à Miami, en Floride. C'est en 2008 qu'elle a obtenu la nationalité américaine. Pendant son enfance, elle subissait une exclusion sociale à cause de ses origines et de son immigration. Pour les autres, elle n'était pas la bienvenue, elle était traitée comme une étrangère. À cause de cela, elle s'est énormément renfermée sur elle-même et se mettait à l'écart.
Elle s'est intégrée aux États-Unis grâce à sa musique. Camila, dû à son passé, a décidé de s'engager dans la cause de l'immigration. Elle est d'ailleurs l'une des artistes les plus engagées. Elle n'hésite pas à prendre la parole sur ses réseaux publics, elle soutient des œuvres de charité, elle a aussi rejoint le mouvement Black Lives Matter et défend la cause environnementale. C'est un exemple pour les Latinos et tous les autres immigrés qui veulent vivre le rêve américain.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre écoute et bonne journée à vous. C'était les étudiants de la Fertès sur Radio PFM.
Ouais, c'est Léo ici. On déteste les chats ici, que ici.
Moi, c'est Eve et j'ai rien d'insolite. C'est triste, vraiment.
Ouais, moi, c'est Pierre et je déteste les girafes.
Moi, c'est Lara et j'ai 6 doigts.
Moi, c'est Océane et j'adore les pieds.
Moi, c'est Alicia et je déteste les ongles crochus.
Bah ouais, je m'appelle Théo Madouar et mon truc insolite, c'est que je sais retourner mon pied à l'envers.
C'est Raphine.
J'ai un talent de rappeuse caché, mais sinon, mon grand talent, c'est que je sais faire Pikachu.
Pikachu.
Bah moi, c'est Zoé, du coup, et je sais faire la goutte d'eau avec ma bouche.
Moi, c'est Océane et je sais faire l'angle droit avec mon pouce.